Bonjour, j'espère que vous allez bien, bonne année à tous et à tous. On continue notre série, d'accord? On est à mi-chemin, on va dire. Donc, vous vous souvenez là, de ce qu'on a vu la semaine dernière, on a parlé de la lecture de la parole, de la Bible ensemble, et aujourd'hui on va parler de la prière. La prière. Alors le Notre Père, c'est certainement le passage ou l'un des passages les plus connus dans la Bible par les Français, parce que la majorité d'entre eux ont suivi le catéchisme, appris par cœur le Notre Père. Et en fait, en tant que protestant, en tant qu'évangélique, on a souvent appris le Notre Père comme étant la manière pour prier en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la version de Luc, le Notre Père, fait suite à une question d'un des disciples, je sais plus c'est lequel. Et en fait, le disciple demande à Jésus, il lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est qu'ensuite, Jésus récite le Notre Père dans Luc 11. Si vous voulez voir. Seigneur, enseigne-nous à prier. Moi, ce que j'en retiens de Notre Père, c'est que c'est important de savoir quelles sont certaines choses, quels sont les éléments à inclure dans la prière, mais ce n'est pas le plus important. Seigneur, enseigne-nous à prier. Le plus important en tant que disciple de Christ, c'est d'avoir une vie de prière. C'est pas la méthodologie, c'est pas la technique, c'est pas les mots. Guérir les malades, enseigner la parole, exorciser les démons, c'est ce que faisait Jésus la majeure partie de son temps, dans son ministère à temps plein. Et ça lui prenait beaucoup de temps. Mais ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on lit les évangiles, il prenait toujours le temps de cultiver une vie de prière auprès de son Père. Il le faisait toujours. Alors combien, à plus forte raison, nous, ses disciples, nous, les enfants de Dieu, du Père, devons aussi faire cela. Avoir une vie de prière, en gros, c'est essentiellement communier avec Dieu. C'est ça, prier. C'est passer du temps avec Dieu. Cultiver une vie de prière, c'est cultiver une relation avec Dieu. Prier, c'est aller à la rencontre de Dieu. C'est de passer du temps avec le Père. C'est d'être dans la présence du Créateur de l'univers. C'est ça, prier. Et donc, quand le disciple qui demande « Seigneur, enseigne-nous à prier », il venait de voir Jésus justement passer du temps avec son Père dans un temps seul avec Dieu. Et donc, si nous, on arrive à intégrer cette habitude dans notre vie quotidienne, dans notre liturgie quotidienne, ça nous changera et ça nous transformera au plus profond de notre être. Pourquoi est-ce que si l'on passe du temps dans la prière, ça nous changera et ça nous transformera? Ben, c'est très simple. Parce que si on prie, si on mène une vie de prière, on sera changé et transformé parce qu'on est au contact, on est dans la présence du Créateur de l'univers. Et si on est dans la présence et au contact du Créateur de l'univers, on ne peut qu'être changé et transformé. Et donc aujourd'hui, j'ai divisé mon message en trois parties. Premièrement, on va parler de la nature de la prière. Ensuite, on va parler rapidement des éléments de la prière et ensuite de la puissance de la prière. Nature, éléments, puissance. Alors, qu'est-ce que la nature de la prière? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est passer du temps avec le Père, mais la nature en soi de la prière se base sur le relationnel. La prière, c'est du relationnel. Lisez avec moi le verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, avant d'enseigner le Notre Père, Jésus ici donne deux exemples concrets de ce que ça veut dire, de ce que n'est pas la prière. Et en fait, il qualifie justement ces exemples d'hypocrites. Pourquoi est-ce hypocrite? Pourquoi est-ce que les pharisiens, les enseignants de la loi, lorsqu'ils prient, c'est hypocrite? C'est très simple. Parce que c'est pas basé sur le relationnel. La prière, c'est pas une parade publique d'un vocabulaire religieux que l'on peut avoir ou de connaissances que l'on peut avoir pour impressionner les autres. Et si on est honnête avec soi, lorsque on prie dans l'église ou dans un groupe de maison, lorsqu'une personne fait une belle prière, on a tendance à être plus ou moins impressionné parce qu'il a un beau langage, parce qu'il a un beau vocabulaire. Mais c'est pas le but de la prière. C'est pas une parade biblique de langage religieux. Vous savez, dans la société gréco-romaine, vous savez ce que c'était un hypocrite à l'époque, dans la société gréco-romaine? Un hypocrite, c'était un acteur de théâtre. C'est un acteur de théâtre qui jouait un rôle sur une scène et il mettait un masque. Et donc, c'était un jeu, un spectacle, et prétendait être un personnage qu'il n'était évidemment pas, en réalité. Et donc, Jésus, ici, il dénonce au verset 5 et 7 les gens qui jouent un rôle devant un public, prétendant être une personne qui ne le sont pas, en réalité. C'est faux, c'est artificiel, c'est superficiel, c'est hypocrite. C'est ça, être hypocrite. Et sachez que la prière, c'est pas un moyen d'acquérir les faveurs de Dieu à travers une performance théâtrale. Parce que c'est ce qu'ils pensaient faire les pharisiens et les docteurs de la loi. Et pour les hypocrites, c'était un moyen de séduire leur public, les personnes qui allaient à la synagogue, les gens religieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Jésus, au verset 5, il dit qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Leur récompense, c'est quoi? C'est d'être bien vu de leur public, d'être applaudi, d'avoir une bonne réputation. Et en fait, c'est pourquoi c'est compliqué et même parfois dangereux d'être devant les gens. Que ce soit pour moi, de prêcher, que ce soit pour David en président, que ce soit pour Samuel en menant la musique, ça peut être un danger. Pourquoi? Parce que la tentation de jouer un rôle, elle est toujours présente. Elle est toujours là, lorsqu'on est devant les gens, surtout à l'église. Parce que moi, je pourrais venir devant vous et vous dire comment vivre votre vie de disciple, en tant que pasteur, en tant que théologien, en tant que enseignant, et de l'autre côté, être loin de Dieu. C'est possible. C'est une tentation parfois. Verset 5. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Ici, bien sûr, Jésus, il n'est pas là pour critiquer le lieu, il n'est pas là non plus pour dire qu'il faut prier debout, assis, à genoux, quoi que ce soit. Peu importe. Ici, Jésus désapprouve le motif d'être bien vu des hommes. Et dans le contexte immédiat de notre passage de Matthieu 6, Jésus utilise le même langage concernant l'offrande et le jeûne. Et donc, Jésus clairement ici réprimande le fait de jouer un rôle. Ouais, de l'extérieur, ça peut paraître bien de faire de belles prières, de s'exprimer distinctement, avec éloquence, avec un joli vocabulaire religieux. Mais il joue un rôle ici. Il joue un rôle. Alors, comment savoir que nos prières sont authentiques ou pas? Comment on fait pour savoir ça? Quand on se réunit publiquement, à l'église, dans un groupe de maison, dans une étude biblique, on peut faire une belle prière devant tout le monde. Tout le monde peut le faire. Mais ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre chambre lorsqu'elle est fermée à porte. Est-ce que vous avez beaucoup de choses à dire à Dieu ou pas? Donc, vous avez réponse à votre question de savoir si vos prières sont authentiques ou pas lorsque vous priez publiquement. Le test ultime, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre chambre, pas à l'extérieur. C'est par exemple, à l'église, je sais pas si vous connaissez tous entre vous, bien ou pas, mais disons que vous voyez une personne à l'église le dimanche. Et en fait, vous n'avez pas une relation vraiment avec cette personne-là. Vous la connaissez de vue, entre guillemets, mais vous n'avez pas vraiment une relation personnelle avec elle, ou vous parlez très rarement avec cette personne dans l'église, que ce soit par manque d'affinité ou parce que vous n'avez pas la possibilité. Enfin, je ne sais rien. Mais je sais pas. On vient vous voir pour parler de cette personne-là. Et en fait, vous faites comme si vous connaissiez cette personne en disant que, ben, en fait, oui, cette personne, elle est très bien, elle est très serviable, elle aime le Seigneur, etc., etc. Et en fait, vous vantez ses mérites. Mais en fait, vous n'avez aucune relation avec cette personne-là. Et donc, les gens vous écoutent et ils pensent que vous avez une belle amitié, vous avez une belle relation ensemble. Puis, ils vont voir la personne en question pour lui dire justement toutes les belles choses qu'ils ont entendues de votre part, de votre côté. Et après, quelques minutes plus tard, il y a la personne qui vient vous voir mais qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis tout ça alors qu'on se connaît à peine ?» Ce serait pas faux et hypocrite? Et en fait, ici, c'est ce que Jésus dénonce exactement. Parce qu'on peut faire croire extérieurement aux autres que l'on est proche de Dieu en faisant de belles prières, mais en réalité, l'absence de vie de prière dans sa vie personnelle démontre une absence de relation avec Dieu. Et donc, on ne peut pas faire semblant de prier publiquement si on ne prie pas intimement dans sa chambre. Verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. L'autre exemple tout autant hypocrite, c'est une approche non pas religieuse, mais plutôt séculière, dans le sens où tout être humain évangélise. Pourquoi? Parce qu'on a tous des valeurs que l'on véhicule en tant qu'être humain, quelles qu'elles soient, religieuses ou pas. On a tous un Dieu parce qu'on adore tous une idole. Et donc, on prie tous à notre manière parce qu'on a un Dieu, on a une idole. En fait, la question, c'est de savoir quel est le contenu de notre évangélisation, qui est notre Dieu et quelle est la personne à qui nous prions. Et donc, en fait, cette approche se focalise donc sur une technique de prière. Quand il dit « ne multipliez pas les paroles comme les autres membres des autres peuples ». Aujourd'hui, en France, en Occident, dans les autres pays occidentaux, c'est la mode de pratiquer la méditation, c'est la mode de pratiquer les techniques de relaxation, de faire toutes ces choses-là. Et en fait, c'est utiliser l'immanence, c'est d'essayer d'utiliser la transcendance pour obtenir une quête personnelle, un bonheur personnel, une sérénité absolue, ou parfois ne faire qu'un avec son corps et son esprit. C'est vraiment cette mode du développement personnel via toutes ces méthodes, toutes ces techniques. C'est juste une question de procédé, de technique, de méthodologie, de mots, des prières que l'on fait, que l'on récite. Mais je vous rappelle une chose, la prière, la nature de la prière, c'est le relationnel et non l'auto-centrage sur soi. Et donc, c'est soi-disant spiritualité New Age. En fait, c'est des simples activités avec un monologue centré sur soi-même. La prière biblique, c'est un contact personnel, relationnel avec Dieu, notre Père. Et le problème des hypocrites, c'est pas ce qu'ils font. Une fois de plus, le problème des hypocrites, c'est la raison et la motivation de leurs actions, qui est d'être bien vu, d'être bien vu par les hommes et de recevoir une gloire. Un hypocrite, il veut pas être saint. Il veut apparaître saint. Un hypocrite, il veut pas être pieux, mais il veut apparaître pieux. Un hypocrite, il veut pas être juste, il veut simplement apparaître juste. L'hypocrite, il est soucieux de l'approbation, des hommes et non de Dieu. Et c'est pour ça qu'il se donne en spectacle, en tant qu'hypocrite. Et Jésus, lorsqu'il enseigne le Notre Père, c'est quelque chose qui est court, mais simple et très beau. Ce qui nous mène à notre deuxième partie, les éléments de prière. Versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, notre Père céleste, que ta sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ces mots, vous les connaissez. Vous les avez peut-être appris par cœur à l'école du dimanche. Mais on trouve plusieurs éléments dans cette prière que Jésus enseigne à ses disciples. Ça parle d'adoration, de confession, de repentance, de supplication. Et en fait, essentiellement, ce qui est intéressant, lorsque vous lisez le Notre Père, c'est que c'est Dieu qui est mis en lumière. Qu'est-ce qui est mis en lumière ? Sa provision. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce qui est mis en lumière ? Son pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce qui est mis en lumière ? Sa protection. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et en fait, ces traits de caractère de notre Père, provision, pardon et protection, ça nous aide à nous rappeler du message de l'Évangile. Et ces éléments, la provision, le pardon et la protection, s'imbriquent parfaitement avec ce que Jésus accomplit à la croix. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La prière, c'est une bonne habitude de grâce parce qu'elle nous permet au quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans notre routine, de nous souvenir qu'à la croix, Jésus, il a pourvu, il a pardonné et il a protégé. Il a fait tout ça pour nous à la croix. Et donc, l'Esprit nous rappelle de cette provision, de ce pardon, de cette protection, comme une promesse qui est accomplie parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Cependant, dans ce que Jésus dit, il y a quelque chose d'assez étrange. Lisez avec moi verset 8. « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Si Dieu sait exactement ce qu'on va lui demander, pourquoi prier ? Pourquoi passer du temps avec notre Père ? Dieu aime ses enfants. Et donc, il veut passer du temps avec eux, avec nous. Et comme je vous l'ai dit, l'essence, la nature de la prière, c'est le relationnel. Alors, pourquoi lui demander des choses alors qu'il connaît déjà nos requêtes. Pourquoi faire ça ? Pourquoi passer du temps dans la prière ? Dieu, il est omniscient. Il sait exactement tout. Il le sait. mais il nous exhorte de lui demander. De lui demander est la raison pour laquelle il nous pousse à être dans sa présence. C'est parce que, en fait, il veut que nous approfondissions notre amour, notre foi et notre confiance en lui. Pour vivre une relation avec notre Créateur. Et donc, il veut nous donner cette opportunité de passer du temps avec lui, une fois de plus dans sa présence, en utilisant cette habitude de la grâce qui est la prière. Pour notre bénéfice à nous, pas pour la sienne. Et la chose importante, c'est que la prière, faut la pratiquer, que ce soit dans les bonnes ou dans les mauvaises circonstances de la vie. Que ça aille bien ou que ça aille mal. Dieu veut qu'on aille vers lui. Dieu veut qu'on passe du temps avec lui. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par contre, je vais vous encourager à quelque chose lorsque vous priez. Lorsque vous priez, n'allez pas directement vers Dieu et lui exprimer vos requêtes, vos problèmes. Non pas parce qu'il les connaît déjà ou qu'il n'est pas préoccupé par vos problèmes, vos soucis ou quoi que ce soit. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Imaginons que, en ce moment, c'est compliqué pour vous dans votre vie personnelle. Je ne sais pas ce que vous traversez. Mais imaginons que c'est compliqué pour vous. Que ce soit financièrement, que ce soit au travail, que ce soit relationnellement, que ce soit à l'église, que ce soit des incertitudes sur l'avenir. Vous allez à Dieu. Et vous lui apportez directement ces sujets de prière pour améliorer ou changer votre situation. Et souvent, on veut que Dieu exauce directement ce qu'on lui demande en priant, comme si on pouvait faire sortir un génie de sa bouteille. Et lorsque l'on fait ça, non seulement on se concentre sur ses propres problèmes, donc sur soi-même, mais surtout, on fait de Dieu un moyen à des fins. Et dans ce cas-là, on n'est plus chrétien, mais on est utilitariste. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans la philosophie, l'utilitarisme, c'est une doctrine qui dit qu'il faut s'entourer de choses, de valeurs, de personnes utiles. Utiles qui puissent contribuer à notre bonheur personnel. Sinon, si ces choses-là sont dans notre vie, des personnes qui sont dans notre vie ne contribuent justement pas à notre bonheur personnel, il faut s'en débarrasser, sinon ça ne sert à rien. C'est comme si, par exemple, un ami vient vous voir, il vous dit « Est-ce que tu peux me donner de l'argent ? Est-ce que tu peux me trouver un mari, une femme ? Est-ce que tu peux me trouver un nouveau travail, une promotion ? Me donner une promotion ?» Et vous demande ça sans dire bonjour, ni vous demander comment ça va. Comment est-ce que vous vous sentiriez ? Alors, si votre premier souci en allant vers Dieu, lorsque vous priez, c'est qu'il résolve vos problèmes, c'est que vous êtes comme ces religieux hypocrites dans le sens où Dieu n'est qu'un moyen pour atteindre un but précis. Leur but à eux, c'était d'être bien vu des gens. Le vôtre sera d'avoir de meilleures conditions de vie. C'est différent, mais c'est juste la même chose, d'une certaine manière. Tim Keller, pasteur à New York, il a dit cette chose suivante. Il a dit, les religieux trouvent Dieu utile. Dieu peut être utile. Mais les chrétiens trouvent Dieu sublime. Votre but, c'est d'utiliser Dieu ou c'est de l'admirer ? Et le moyen d'entrer dans la prière, Jésus nous l'enseigne, c'est de le faire par l'adoration. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le plus difficile en tant qu'être humain, c'est de se retirer au centre de sa propre attention. C'est le plus compliqué. Et de faire de la place à Dieu qui, lui, le mérite entièrement. C'est le plus compliqué. Et si on arrive à faire ça, on arrive à réaligner notre cœur, notre pensée, notre esprit, et donc on sera en capacité à venir à Dieu en totale admiration et en totale reconnaissance et adoration, même quand ça va pas. Surtout quand ça va pas. Parce que les circonstances de la vie fluctueront, vous le savez, ça change, mais Dieu ne changera jamais. Et ça, vous aussi, vous le savez. Mais si on arrive à comprendre dans notre tête, dans notre cœur, et avec nos mains qu'on y arrive, alors notre vie de prière sera marquée par la louange, l'adoration, la reconnaissance pour le Créateur. Ce qui est important dans la prière, c'est d'apprendre à dire à Dieu, « Père, je sais que tu es fidèle et que tu ne changes pas. Je sais que les circonstances de ma vie changeront et je veux que tu sois là pendant les moments de bonheur pour que je puisse te louer, mais je veux aussi que tu sois là pendant les moments de malheur pour que tu puisses être présent, pour que je puisse te remettre ces soucis, ces fardeaux. Pourquoi ? Parce que tu es mon Père bien-aimé. C'est ce qu'il faut apprendre à dire lorsque l'on prie. Il faut savoir reconnaître que Dieu, c'est le souverain qui est légitime, c'est lui qui règne, c'est lui qui gouverne. Il est celui dont la volonté sera faite sur la terre comme au ciel, et pas la nôtre. La puissance de la prière. Verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Verset 8. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Notre Père céleste. La réponse des hypocrites, une fois de plus, c'est qu'ils auront été bien vus des gens. Mais la récompense de celui qui prie sincèrement dans sa chambre, c'est quoi ? C'est Dieu lui-même. Et non pas pour recevoir des choses de la part de Dieu, mais c'est d'avoir Dieu. Dieu lui-même. Le but de la prière, c'est d'aller à la rencontre de Dieu, de passer du temps avec lui, d'être dans sa présence à lui. D'un côté, comme dans le texte, certains recevront l'approbation des hommes, de l'autre, vous aurez l'attention du Créateur de l'univers. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce que vous voulez choisir ? Dieu veut que vous lui dites ce qui se passe dans votre vie, sur les moments de bonheur, les moments de douleur, les joies, les peines. C'est un Dieu qui est accessible, c'est lui qui contrôle toutes les choses, c'est lui qui règne à travers les âges, mais ce Dieu, c'est notre Père. Laissez-moi conclure par une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Barabbas. Vous connaissez tous Barabbas si vous avez grandi à l'église. Pendant le procès de Jésus devant Pilate, Barabbas joue un rôle crucial, il joue un rôle primordial dans la rédemption du peuple de Dieu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré l'importance de son rôle, Barabbas, il n'a aucune réplique dans les évangiles, zéro. Sachez qu'à l'époque, dans les évangiles, lorsque les auteurs des évangiles écrivent les évangiles, les gens marginalisés, comme les non-juifs, comme les femmes, comme les criminels, comme les lépreux, ils n'étaient pas nommés. Plusieurs fois, vous lisez dans les évangiles que Jésus guérit un lépreux, guérit une femme sans connaître le nom. D'accord? Et donc, c'est étonnant que les auteurs ici nomment Barabbas, qui était un criminel. Et c'est pas par hasard. Barabbas, il est en prison. Et les Écritures nous disent pourquoi il est en prison, parce qu'il est un révolutionnaire et un meurtrier condamné à la peine de mort. Et donc, pendant le procès de Jésus, qui se trouve devant Ponce Pilate, il y a Ponce Pilate qui interroge Jésus et lui dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Mais Jésus, il ne bronche pas, il ne dit rien, et il répond rien. Nous, je pense que humainement, on aurait dit, mais tu sais pas que je suis le Fils de Dieu et que j'ai le pouvoir de faire descendre une armée d'anges célestes. Mais il fait rien, il dit rien. Et après l'interrogatoire, il y a Pilate qui revient devant les Juifs. Il leur dit que ben il trouve rien de culpabilisant envers Jésus. Et donc, durant la Pâque juive, il y avait une tradition. C'était que Pilate relâche un prisonnier. Et donc, Pilate voulait relâcher Jésus. Mais la foule veut crucifier Jésus. Ils disent « crucifie Jésus » et il veut que ça soit Barabbas qui soit relâché. Imaginons la scène pendant un instant. Il y a un soldat romain qui s'approche de la cellule de Barabbas. Et donc, Barabbas, il pense qu'il va se faire crucifier parce qu'il y a un soldat romain qui va venir. Et à sa grande surprise, il y a le soldat qui lui dit de partir. Et Barabbas, il dit, mais comment ça, je suis libre? Et le soldat romain, il dit, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais apparemment, il y a un certain Jésus de Nazareth qui va prendre ta place. Donc, va-t'en. Sachez une chose, j'imagine que vous n'avez pas étudié l'hébreu, mais Barabbas, c'est la combinaison de deux mots. Bar, fils, Abbas, père. Barabbas, ça veut dire le fils du père. Mais il ignorait que le véritable fils du père allait prendre sa place. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer une seconde ce qui traversait dans la tête de Barabbas? Il pensait peut-être qu'on lui faisait un canular, il pensait être crucifié, mais on lui dit d'être libre, mais en fait, c'est un canular, certainement, je sais pas, j'en sais rien. Et je pense que oui, on peut se mettre dans la tête de Barabbas parce que nous avons tous péché, on mérite une condamnation, on est des pécheurs pour nos crimes. Mais on a été relâché parce que Jésus de Nazareth a pris notre place. Et donc, n'oublions pas d'où nous venons. On a accès à la présence d'un Dieu qui est saint, un accès direct au Créateur de l'univers assis sur le trône de gloire. Et tout ça pour vous dire, courez vers Dieu. Courez vers Dieu parce qu'il est votre Père. On a un accès direct à lui. Faites pas semblant de prier devant les autres. Allez dans votre chambre, fermez votre porte et passez du temps avec votre Père. Vous êtes son enfant, vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Où d'autre pouvez-vous aller? Priez avec moi. Seigneur, merci pour ce passage. Merci parce que il nous explique beaucoup de choses et il nous aide à comprendre beaucoup de choses, Seigneur. Et je pense que beaucoup, on veut pas être qualifié par Jésus d'hypocrite. On veut pas que tu nous vois comme des hypocrites. Alors je te demande de nous aider à être sincères et authentiques. Lorsque l'on vient à l'église, lorsque l'on fait ce que l'on fait, soit chanter, prier, chanter, ou enfin toute autre activité. Et pardonne-nous lorsque on le fait superficiellement, lorsque l'on fait sans authenticité. Et ce que l'on veut, c'est simplement être proche de toi, que l'on puisse être transformé, que l'on puisse être encouragé. Et ça peut l'être à travers les frères et sœurs, la communion fraternelle, mais c'est surtout à ton contact, Seigneur. Et donc, aide-nous à vivre cette vie de prière qui est cruciale et vitale en tant que tes enfants, Seigneur. Et aide-nous à comprendre ce que c'est vraiment que de prier. C'est pas simplement un devoir, une responsabilité, mais c'est surtout un moment de qualité que l'on peut passer avec toi, Seigneur. Et je te demande vraiment d'insuffler cette habitude de grâce dans la vie de toutes les personnes qui ont du mal dans la prière. Et aussi donne à cette congrégation, à cette église, une vie de prière qui soit forte et retentissante, Seigneur. Et je te prie toutes ces choses au nom du Christ. Amen.